France Culture. Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot. This is why
I'm hot. Nous sommes le 11 janvier, dimanche 11 janvier. Bienvenue dans Soft Power, le magazine du dimanche soir de France Culture, géopolitique, médias, numérique, influence, politique culturelle. Soft Power, c'est tous les dimanches soirs de 18h10 à 20h. Et toujours en direct du studio 341 de la Maison de la Radio. Ce week-end, l'Opéra National de Washington, l'un des principaux opéras américains, a annoncé son départ du Kennedy Center dans la capitale américaine, rebaptisé d'ailleurs ce Kennedy Center, le Kennedy Trump Center. Cette annonce, qui illustre quelques-unes des tensions de la politique culturelle américaine sous Donald Trump, peut nous servir de vignette ce soir sur l'état de la musique classique en ce début d'année 2026. Comment va le classique, ses orchestres, ainsi que ses opéras, ses publics sont-ils vieillissants, comme on le dit souvent, et quels sont les contre-exemples, les exemples qui contredisent finalement cette narrative. Comment le classique existe-t-il en ligne également, en numérique, que ce soit sur YouTube ou sur des applications comme Apple Music Classical, Spotify ou l'application Radio France. De tout cela, nous allons parler avec un invité maison, comme on dit, corporate, Michel Aurier, qui est le directeur de la musique et de la création ici à la Maison de la Radio et de la musique. Outre l'auditorium de Radio France, il coordonne nos deux orchestres, l'Orchestre National de France et l'Orchestre Philharmonique de Radio France, ainsi que le Chœur et la Maîtrise de Radio France, ou encore le Festival Radio France à Montpellier chaque été. Bonsoir Michel Aurier.
Bonsoir.
On ne le sait pas toujours, mais loin de l'avenue Kennedy, mais Radio France est aussi la maison de deux des principaux orchestres français, raison de notre invitation ce soir. Alors deux, c'est bien, on parlera tout à l'heure de ce débat, est-ce qu'il n'en faudrait pas un seul, disent certains, mais en 1950, ou plus aucun, ou les baptisés Trump, mais en 1950, il y avait 17 orchestres de radio, et il n'y en a plus que deux en France aujourd'hui.
Il n'y en a plus que deux à la radio. Ce qui montre que le downsizing, c'est quelque chose qui a existé de façon peut-être un peu lente et un peu dissimulée, mais quand même. Non, l'histoire est un peu plus compliquée. Les 17 en question ont servi de base à ce qu'on a appelé le plan Landowski dans les années 60, qui a permis de créer des orchestres de région ou d'étoffer certains orchestres de région. Et on a gardé à Radio France d'abord quatre orchestres, trois qui sont devenus le Nouvel Orchestre Philharmonique et l'Orchestre National de l'ORTF, qui est aujourd'hui l'Orchestre National de France et qui est le plus ancien des orchestres permanents français.
Et puis, rassurez-moi, on parlait de l'avenue Kennedy, on ne va pas rebaptiser l'avenue du président Kennedy, l'avenue Kennedy-Trump.
Ou Trump-Kennedy. Malheureusement, ce n'est pas dans mes
mains. Ce n'est pas votre responsabilité.
Ce n'est pas dans mes mains.
Vous n'avez pas ça en charge.
Non.
Bien. On vous retrouve un peu après 19h15 pour tous ces sujets tout au long de ce programme, si vous le souhaitez. Olivier Wieworka et Michel Vinocq co-dirigent les lieux mondiaux de l'histoire de France aux éditions Perrin. C'est un sujet évidemment de soft power. Vous le dites d'ailleurs dès votre préface, d'où mon invitation ce soir, car vous décrivez 27 lieux de mémoire, si j'ose dire, qui vont d'Austerlitz à Waterloo. J'ai pris des exemples napoléoniens. De la Statue de la Liberté au canal de Suez, ces lieux emblématiques qui symbolisent la France à travers le monde. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Est-ce Olivier Wieworka pour raconter la France vue d'ailleurs ?
Oui, tout à fait. L'idée était de montrer que toute une partie de l'histoire nationale s'est effectuée sur le territoire français, mais que toute une partie de notre histoire s'est également déroulée et accomplie à l'étranger. Et donc, c'est faire, dans une certaine mesure, un pas de côté pour essayer de porter un autre regard sur notre pays, notre histoire, notre passé.
Michel Vinocq.
Oui, effectivement, il y a sur les 5 continents du monde des marques de notre histoire nationale. Alors, cette histoire, c'est bien entendu l'histoire coloniale, avec ses bons et ses mauvais côtés.
Bon, vous avez Casablanca, il y a
alors aujourd'hui,
Alger, etc.
Aujourd'hui, on pourrait plutôt dire les mauvais côtés, puisque la colonisation, c'est pas un sujet qui nous honore toujours. Bon, mais il y a aussi les bons côtés.
Même rarement.
Et des bons côtés qu'on ignore. Je prends un exemple qui est assez remarquable. C'est l'exemple de l'Institut Pasteur du Vietnam, qui a été créé par un médecin français qui s'appelle Alexandre Yourcin, lequel a découvert, a inventé le vaccin contre la peste et qui a eu un très grand effet, notamment sur les animaux. La peste bovine faisait des ravages en Indochine, enfin dans la Nam où il était, et à Natran, dans cette ville de Natran, il a créé un institut Pasteur qui s'est du reste démultiplié, car il y a aujourd'hui au Vietnam plusieurs instituts Pasteur qui sont honorés aussi bien par les Vietnamiens que par les Français.
On vous retrouve vers 18h45 pour parler de tout ça, Olivier Vévorka et Michel Vinoc, « Les lieux mondiaux de l'histoire de France », c'est le titre de ce livre aux éditions Perrin. Au sommaire encore de cette émission, dans un instant pour commencer, l'actualité de la semaine, vue par Anaëlle Pijard, rédactrice en chef du mensuel The Arts Newspaper France et journaliste à Paris Match, et Emmanuel Paquette. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Anaëlle, vous nous présentez ce soir l'année 2026 des arts visuels.
Tout à fait, une année très riche en expositions et puis aussi une année de biennale à Venise.
Emmanuel, vous revenez sur deux études qui dessinent les contours de la situation du livre et de l'édition. Deux études différentes mais qui se rejoignent,
oui, effectivement,
d'une certaine manière.
Effectivement, c'est l'une sur la publicité des livres à la télévision, puisque c'est une expérimentation qui a été lancée en 2024 et qui est toujours en cours. Puis l'autre sur les ventes d'ouvrages en 2025. Et dans les deux cas, on voit une forme de blockbusterisation ou de best-sellerisation du marché avec des grands véhicules, des grands wagons qui tirent le marché, puis derrière, finalement, pas grand-chose.
Et puis, nous parlerons vers 18h30 dans le box-office de la semaine du film L'Agent Secret, du roman La Collision, et du géant américain Live Nation qui rachète l'Arena La Défense. Et si l'on ajoute l'Express qui lance l'Express Europe et le singapourien Manus racheté par Meta, ça a l'air complexe, mais la situation est complexe, mais nous essaierons de l'expliquer, de la décrypter. Meta, c'est la maison mère de Facebook. Voilà pour le sommaire de cette émission. Une émission préparée par Quentin Levent avec en régie Anthony Thomasson. Réalisation ce soir, Alexandra Malka. Nous commençons cette émission, comme chaque dimanche, par l'actualité suivie par le box-office livre, cinéma et musique, avec vous, Anaëlle Pijard, Emmanuel Paquette, ainsi que nos trois invités ce soir. Et pour débuter cette actualité, un focus, petit focus sur l'Opéra National de Washington. Après plus d'un demi-siècle de collaboration, cet Opéra National annoncé ce week-end quitter le Kennedy Center de Washington après des difficultés depuis plusieurs mois. Alors si la mainmise, que dis-je, la main basse de Donald Trump sur ce complexe culturel de 2400 sièges qui a été érigé en mémoire, l'ancien président John Fitzgerald Kennedy est l'une des raisons de ce départ. On aurait tort de n'y voir qu'un épisode de plus de la tragicomédie de la politique culturelle sous Donald Trump. Alors oui, bien sûr, rappelons-le, Donald Trump s'est autoproclamé président du Kennedy Center, en a viré le conseil d'administration pour le remplacer par ses propres amis et l'a finalement rebaptisé en y accolant son propre nom, Kennedy Trump Center. Mais parmi les raisons qui motivent cette décision, il y a aussi le vieillissement du public, de la musique classique en général et de l'opéra en particulier, ainsi que la diminution des dons de la philanthropie qui constitue, rappelons-le, aujourd'hui autour de 35% du budget des institutions culturelles américaines. Toutes raisons qui sont autant de problèmes invoqués pour ce départ. Alors, anecdotique, diront certains, Et ils n'auront pas tout à fait tort, car il existe près de 2000 orchestres aux États-Unis, dont 350 de niveau professionnel et une vingtaine au moins de très prestigieux orchestres de résonance internationale. Je pense au BSO à Boston, au CSO à Chicago, au New York Philharmonic, etc., à Los Angeles, à Miami ou à San Francisco. De même, on estime à plus de 200 le nombre d'opéras aux États-Unis, même si leur professionnalisme et leur production varient fortement. Les difficultés d'un seul opéra ne disent donc rien de l'ensemble du secteur et de sa vivacité, surtout que l'Opéra National de Washington est en difficulté là, très spécifiquement, du fait de Donald Trump, donc un problème conjoncturel. Et pourtant, ce symbole est plus inquiétant et paraît, je dirais, plus structurel, car il révèle la précarité du secteur, ou disons plutôt son équilibre très fragile, qu'un seul événement, en l'occurrence l'arrivée de Donald Trump, peut gravement déséquilibrer, justement. Le modèle culturel américain repose pour l'essentiel sur la billetterie, qui représente en gros 50% des revenus, dans lesquels il faut inclure les restaurants, les librairies, les autres locations de salles, tout ça, ça fait 50%. Et puis les autres 50% de recettes viennent essentiellement de la philanthropie, donc publique ou privée, d'abord et avant tout des individus à titre individuel, pour 35% environ, je l'ai dit tout à l'heure, des fondations, 5%, des entreprises, uniquement 2,5%, donc c'est très peu, hein, très, très peu contrairement à ce qu'on pense souvent, et pour moins de 7%, pour finir, à peu près d'argent public, lequel est divisé entre les agences culturelles fédérales, les États et les villes. Alors on peut critiquer ce système d'ensemble, mais il a produit, il faut bien le dire, le meilleur de l'art dans certains secteurs aux États-Unis depuis 1945. Et on a simplement l'impression aujourd'hui que ce modèle est un peu grippé, qu'il est en train de s'ankyloser, même s'il y a évidemment encore de beaux restes. Les coups de griffe, d'une certaine manière, de Donald Trump ne sont donc pas le dernier clou dans le cercueil de la culture américaine, comme certains le pensent, mais plutôt qu'ils disent quelque chose, me semble-t-il, sur les changements de notre époque. Michel Aurier.
Oui, alors c'est vrai, mais il y a quand même des raisons conjoncturelles sur le Kennedy Center, sur lesquelles il faut s'attarder deux secondes. La première, c'est que du fait de cette objet qui est devenu un objet de guerre culturelle entre l'administration Trump et le milieu culturel aux États-Unis, il y a à peu près 40% de public en moins sur la saison qui est en cours au Kennedy Center.
Avec des annulations, etc.
Mais d'abord sur le ticketing. Ensuite, il y a effectivement le problème des annulations. Il y a pas mal d'artistes qui ont décidé de ne pas honorer leur contrat avec le Kennedy Center, ce qui occasionne d'ailleurs pas mal de contentieux avec le nouveau directeur du Kennedy Center, qui est Richard Grenell, qui est un républicain, qui a été ambassadeur auprès de Donald Trump dans le premier mandat. Et puis, au-delà de ça, il y a effectivement la raison que vous invoquez, mais qui est accentuée par les deux choses qui avancent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de donateurs du Kennedy Center qui se retirent du Kennedy Center.
Pour ces raisons mêmes.
Ça a généré sur l'opéra sur la compagnie qui gère l'opéra de Washington des difficultés financières qui pour elle sont indépassables, et ça arrive à un moment où le Kennedy Center a de toute façon envie de se séparer de cette alliance exclusive qui lui coûte de l'argent chaque année, puisque faisait partie des gens qui apportaient leur écho au fonctionnement de l'opéra. Et Grenell dit très clairement que ça va lui permettre de travailler avec d'autres compagnies. Et d'autres,
oui, il faut bien rappeler que l'Opéra National de Washington ne va pas fermer, simplement il prend son indépendance, il redevient, on appelle ça un 501(c)(3) en droit américain, c'est-à-dire une association en loi 1901, qui pourra donc aller dans d'autres endroits en fonction des contrats qu'il va négocier.
Alors la difficulté, c'est de trouver d'autres endroits à Washington, ce qui est pour l'instant le
et puis d'autres philanthropes pour remplacer.
Le board est un peu évasif sur la question, mais enfin, les deux, c'est pour ça qu'ils parlent d'accord à l'amiable dans le papier du New York Times, parce qu'ils ont effectivement trouvé un accord de séparation. Après, les sujets que vous évoquez sont réels. D'une part, la population occidentale vieillit en règle générale, donc il y a un vieillissement dans les salles sur lequel on peut travailler, on en reviendra probablement tout à l'heure quand on parlera de la France. Mais en tout cas, il est réel aux États-Unis. États-Unis. Il y a depuis le Covid une baisse de la fréquentation qui n'a pas été inversée. Enfin, qui, les salles ont vraiment...
Spécifiquement au classique ou plus généralement ?
Alors, sur le classique, c'est clair. Je pense que c'est un peu plus général, mais je manque de statistiques là-dessus. En tout cas, sur le classique, depuis la Covid, il y a une vraie difficulté à retrouver le public d'avant dans les salles. Et puis, il y a un changement de génération chez les donateurs. Qui font que la nouvelle génération de donateurs se tourne moins facilement vers des objets de politique culturelle qu'on pouvait trouver précédemment.
Culture encore avec vous, Anaëlle Pigeat, rédactrice en chef du mensuel The Art Newspaper France et journaliste à Paris Match. Vous nous présentez, c'est un sujet plus art visuel, l'année 2026, des arts visuels justement, ce qui nous attend cette année dans ce secteur, Anaëlle.
Oui, eh bien, après une année 2025 qui a été très riche en art visuel, en exposition, et qui a aussi donné lieu à de très bons chiffres de fréquentation, voire à des records historiques dans des institutions de fréquentation, des records de fréquentation dans des institutions comme le Louvre, comme Versailles, comme le Musée des Beaux-Arts de Lyon ou le MUCEM à Marseille, 2026 nous réserve un programme d'exposition très dense. Du côté de l'art contemporain, des monographies, par exemple, Cary James Marshall, un peintre très connu aux États-Unis qu'on avait aperçu à la collection Pinault, et qu'on va découvrir au Musée d'Art Moderne de Paris, une sorte de peintre de l'histoire noire. Par exemple aussi Henri Taylor au Musée Picasso, autre peintre américain majeur, peu connu en France, portraitiste des communautés noires de Los Angeles. On verra au Centre Pompidou-Metz François Morlaix, artiste conceptuel, radical, d'une fantaisie intense. On verra aussi, alors là j'ai une curiosité particulière, au-delà de nos frontières, pour l'exposition que Pierre Huyghe fera à la Fondation Baillet-Laire en Suisse au mois de mai. Ces expositions sont toujours un événement.
Charmant de la vidéo.
C'est voilà, exactement. On verra aussi deux grandes figures historiques modernes, Calder à la Fondation Vuitton, Leonora Carrington, figure surréaliste anglaise et mexicaine, qu'on verra au Musée du Luxembourg, qu'on redécouvrira dans toute son ampleur. Henri Rousseau, le douanier Rousseau, dans la programmation toujours très fine de l'Orangerie. On verra Renoir au Musée d'Orsay. On verra aussi l'essor du nouveau Grand Palais, avec une exposition de Hilma Afkint, artiste mystique et suédoise aux origines de l'abstraction. L'exposition Cézanne au mois de septembre. Et puis Matisse par le Centre Pompidou, qui va programmer également dans toute la France et également dans des musées internationaux. Et puis du côté de l'art ancien, il faut encore pour quelques semaines aller voir Jacques-Louis David au Louvre pour l'intensité de sa peinture et pour la figure politique qu'il a incarné. Et puis, au mois d'avril, ce sera le choc des titans avec Michel-Ange et Rodin, avec évidemment le corps comme figure centrale, ses rapports à l'âme, et puis tout un jeu passionnant de filiation, d'emprunt, de détournement.
Et puis, comme tous les deux ans, il y a la Biennale d'art contemporain qui porte bien son nom à Venise. Ce sera ce printemps. Qu'est-ce qu'on attend dans ce programme ?
Eh bien, ce sera une biennale très particulière cette année parce que sa commissaire, Koyo Kuo, a disparu en mai dernier. C'est une femme suisse et camerounaise qui a été une figure essentielle de la scène contemporaine, notamment dans la façon qu'elle a eue de repenser l'art issu du continent africain. Elle a été fondatrice à Dakar d'un espace très important qui s'appelle Raw Material, qui a accueilli beaucoup d'artistes, qui a fait des expositions, des artistes en résidence. Elle était jusqu'au printemps dernier directrice du Zeitz Museum au Cap en Afrique du Sud, où elle a fait aussi des expositions très importantes. Et la Biennale à Venise s'intitule In Minor Keys, donc en gamme mineure, pour rester dans une métaphore musicale qui nous occupe aujourd'hui. La liste des artistes sera annoncée en février et le programme sera porté par son équipe de jeunes commissaires qui ont travaillé avec elle. Elle a tout organisé et tout pensé pour leur transmettre ce projet. Et puis pendant ce temps-là à Venise, peut-être un petit mot pour dire qu'à la Fondation Pinault, on verra trois expositions du peintre Michael Armitage, du vidéaste Amar Kanwar et puis de l'artiste américaine Lorna Simpson pour la première fois en Europe.
18h30 en direct sur France Culture, vous écoutez Soft Power jusqu'à 20h. Livre et édition maintenant avec deux études sur le marché du livre. Une étude de notre partenaire d'ailleurs, Nielsen IQ GfK, sur la blockbusterisation, je reprends votre mot Emmanuel Paquette, du secteur. Et puis, pour commencer juste avant ça, une étude du ministère de la Culture sur les résultats des tests sur la publicité des livres à la télévision. Et les deux études, Emmanuel, se rejoignent.
Oui, effectivement, puisque jusqu'à présent, la télévision ne pouvait pas faire de publicité sur des livres. C'était un marché, un secteur qui était interdit. Mais depuis avril 2024, le gouvernement a donc lancé une expérimentation en ouvrant ce marché aux éditeurs de livres, malgré les critiques de petits éditeurs qui se sentaient exclus de ce marché bien trop coûteux pour eux et avec des risques, justement, d'atteinte à la diversité. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui au bout d'un an? Eh ben, le ministère de la Culture avait promis un bilan et pour l'instant, ce bilan est plutôt riche de quelques enseignements. D'abord, au total, entre avril 2024 et août 2025, seulement 21 titres différents ont bénéficié d'une publicité diffusée sur les chaînes de la télévision nationale. En 2024, ces investissements ont porté sur seulement 12 livres publiés par 5 maisons d'édition, avec une seule de ces maisons d'édition qui, à elle seule, a généré quasiment 64% des investissements. Alors quand on rentre dans le détail, les éditeurs de romans et de biographies n'ont investi que 600 000 euros à la télévision nationale sur un budget publicitaire total de près de 73 millions d'euros. Et du côté des BD et des mangas, c'est encore moins, avec simplement 310 000 euros qui ont été investis sur un budget total de 17 millions d'euros. Donc la presse reste le média privilégié par rapport à la télé et donc n'a pas subi de transfert de budget. En revanche, les 4 grandes maisons d'édition qui ne sont pas nommées dans l'étude auraient...
On devine,
effectivement, Hachette, Editis, etc. auraient un peu désinvesti...
Ce sont des groupes, en fait. Donc
ce sont des grands groupes,
c'est ça.
Il y a plusieurs...
10-15 maisons d'édition.
Exactement. Et donc, ils auraient un peu désinvesti la radio pour la télévision nationale. Donc, ça serait plutôt la radio qui pourrait, entre guillemets, être touchée par ces transferts de budget. Surtout, seuls les titres dont le budget média surpasse 200 000 euros ont une chance de se retrouver à la télévision. Il s'agit donc de titres très 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 grand public et appelés à être de très grands best-sellers.
Alors ça, c'était la première étude. La deuxième, elle vient d'un partenaire privé, hein, d'ailleurs partenaire de cette émission, Nielsen IQ GFK, et qui, d'une certaine manière, corrobore un peu cette première étude.
Effectivement, parce que quand on regarde la tendance enregistrée l'année dernière sur le marché des livres, hein, selon Nielsen IQ, le marché de l'édition était un peu à la peine, en légèrement recul, avec un volume de 1,6% en moins, soit 350 millions de titres qui ont été vendus. Et en valeur, ça représente 4,4 milliards d'euros, soit un recul d'1%. Alors, avec des Français qui dépensent certes moins, mais ça cache surtout une réalité qui est bien plus inquiétante, car si on enlève les grands best-sellers, c'est-à-dire le dernier Astérix, et puis surtout les succès de la série La femme de ménage de Freda McFadden, la chute serait beaucoup plus importante, soit 19% en volume. Donc le gros des ventes aujourd'hui se concentre sur quelques titres phares, donc c'est une des grandes mauvaises nouvelles de l'année 2025. L'autre mauvaise nouvelle, c'est la littérature jeunesse, qui est en baisse de 5% et qui est en lien direct avec la baisse de natalité en France. Là encore, seul Lilo et Stitch, qui est donc une production de Disney, s'en sort grâce à la sortie du film, qui a eu une incidence directe sur la vente de livres. En revanche, tout ce qui est Petit Loup, Harry Potter ou encore Pat Patrouille, dont vous êtes un grand lecteur, hein, je crois savoir, Frédéric.
Oui. Comment vous l'appelez? Pat Patrouille.
Pat Patrouille, voilà. Sont tous en très fort recul. Conclusion de Nielsen IQ, il faut s'interroger sur le nombre de publications trop importantes et peut-être rationaliser l'offre sur le marché et, je cite, réenchanter le marché du livre. Alors, on ne sait trop comment, mais en tout cas, c'est leur recette pour l'année 2026.
Réenchanter, ça rappelle justement les livres jeunesse et puis l'idée de produire moins, en fait, tout le monde dit ça depuis 20 ans et en fait, on produit chaque année plus, donc ce qui prouve qu'il doit y avoir d'autres raison à tout ça. Média maintenant avec le magazine L'Express qui lancera prochainement L'Express Europe et fait donc le pari de l'Europe, c'est-à-dire de transformer L'Express en un journal européen avec en ligne et en ligne de mire les leaders d'opinion de ce continent, Emmanuel.
Oui, là, c'est l'objectif, c'est de lancer un nouveau site internet qui va s'appeler l'express.eu à côté de l'express.fr, hein, qui restera. Et il sera lancé le 20 janvier prochain en langue anglaise et polonaise. Donc l'objectif, c'est d'attirer un lectorat européen, notamment des décideurs. Et c'est aussi une montée en puissance grâce à l'intelligence artificielle pour traduire environ 80% des articles de l'Express, mais aussi les podcasts et les vidéos du journal, dans 24 langues différentes d'ici à 2027, autour notamment des thématiques comme la défense, le renseignement et les sciences, qui seront les points forts de
donc
cet espace européen.
Et le polonais, c'est une préfiguration de ce que le
livre
va être.
Dans un deuxième
et c'est fait avec de l'IA et un peu d'humain derrière.
Voilà, avec normalement validation humaine, parce que l'intelligence artificielle se trompe, hein, comme on le dit parfois,
les hallucinations,
souvent.
Voilà.
Exactement. Donc il est quand même de bon ton de laisser l'humain au centre de la décision finale sur la publication d'articles. Son propriétaire, donc Alain Veil, cherche depuis plusieurs mois déjà à ouvrir le capital du magazine, dont la diffusion a reculé de 7,6% sur un an. Il estime pouvoir séduire à peu près 1000 abonnés par pays dans les prochaines années, donc c'est un pari plutôt audacieux, surtout lorsqu'on sait que les précédents en matière de presse écrite, comme l'européen, pour ceux qui les plus anciens d'entre nous, n'ont pas vraiment fonctionné.
En même temps, 1000, c'est pas non plus
un
pari énorme.
C'est pas énorme, mais la marque n'est pas forcément connue dans les autres pays européens, donc on verra si l'Express arrive à faire son trou.
Nous recevrons prochainement Alain Veil, justement, le président du groupe L'Express. Il nous expliquera son projet ici dans Soft Power. Ce sera le 1er février prochain. Numérique, pour finir, avec la société singapourienne Manus. Pour vous dire la vérité, je ne la connaissais pas. Rachetée cette semaine par Meta, l'annonce a été faite. Meta, c'est la maison mère de Facebook, mais aussi de WhatsApp et de...
Instagram.
Et d'Instagram. Une bataille donc à trois, Emmanuel, parce qu'entre Singapour... Il y a aussi la Chine et les États-Unis. Expliquez-nous d'abord ce que fait ce Manus et pourquoi il est racheté. Est-ce que c'est si important que ça? Et comment se joue, qu'est-ce qui se joue dans ce pays indépendant, mais dans la sphère d'influence de la Chine, selon Pékin, où se joue donc une bataille de soft power?
Oui, effectivement, parce que Manus, c'est une intelligence artificielle, comme vous le disiez, qui a beaucoup fait parler d'elle l'année dernière, parce que c'est un agent conversationnel qui nécessite assez peu d'intervention humaine et qui est capable de prendre des décisions par elle-même. Elle avait suscité vraiment le buzz l'année dernière, hein, en même temps que ChatGPT. Puis après, c'était un petit peu retombé. Alors effectivement, Meta a décidé de racheter cette société pour plus de 2 milliards de dollars fin 2025. Mais la Chine va scruter cette opération de près, selon le Financial Times. Alors pourquoi? Puisque le ministère chinois du commerce veut comprendre si la délocalisation du personnel et de la technologie de Manus, qui est partie de Pékin pour s'installer à Singapour, avant la vente par Meta, aurait en réalité nécessité une autorisation, une licence d'exportation en vertu de la loi chinoise. Alors, il faut dire que l'intelligence artificielle est considérée comme centrale par Pékin, notamment dans la stratégie du pays, dans sa volonté de ravir l'hégémonie mondiale aux États-Unis. Et surtout, ce dossier épineux pourrait créer un précédent dangereux pour le Parti communiste chinois, puisqu'on pourrait voir ainsi d'autres start-up déménager de la Chine pour aller dans un autre pays avant de se vendre aux Américains. De ce point de vue-là, l'avenir de Manus sera donc un valeur de test pour le Parti communiste chinois, de voir s'ils arrivent à retenir leurs jeunes pousses à haut potentiel sur leur territoire, alors que les fondateurs, eux, ce dont ils rêvent, c'est de se vendre le plus cher possible pour devenir riches.
Puis, puisqu'on parle de Facebook, je signale cet article passionnant de Guillaume Grallet, publié ce week-end dans le Point. C'est un portrait de Ian LeCun, le génie de l'IA, qui vaut 3 milliards, titre de l'article. Et il quitte Facebook, il est français, pour lancer sa start-up à Paris. Un article à lire dans le Point.
Soft Power. Le box-office.
Nous terminons cette séquence d'actualité comme chaque dimanche par le box-office de la semaine avec nos partenaires, l'Institut d'études GFK pour les meilleures ventes de livres et de jeux vidéo, CBO Box-Office pour le cinéma et Billboard France pour la musique. Film pour commencer avec ce succès d'estime et de critique pour L'Agent étranger qui en trois semaines a déjà réuni 260 000 spectateurs en France. Avec, je crois, de l'ordre de 300 copies. C'est un film brésilien, long, assez complexe, entre le thriller et le film de genre, mais ça marche. À tous les sens du terme, d'abord parce que le Brésil des années 70 y est magnifiquement filmé. Vraiment, c'est épatant. Ensuite, parce que les personnages y sont extrêmement attachants, les acteurs épatants également. L'agent secret, pardon. Et l'intrigue assez originale. Et je ne vous dévoile pas la fin de ce film. Donc, L'agent secret, dont on écoute la bande originale.
Cache, c'est du vieux attaqué mesmo. Je vais la faire meu filho.
Olha, é uma sacanagem, um grau.
Agora você tem que estar sexta-feira cedinho.
Ele é Armando?
Não. O nome dele é Marcelo.
Amende.
Voilà, 260 000 spectateurs en France pour L'Agent Secret, un film que vous avez vu, Michel Aurier, comme moi d'ailleurs.
Oui, absolument. J'ai beaucoup aimé aussi également. Je trouve que vous avez complètement raison de souligner la qualité du filmage des années 70, qui est vraiment impressionnant.
Au Brésil,
parce que, ouais. Oui, au Brésil, parce qu'on retrouve effectivement, ce qu'on imaginait être en tout cas, la densité de la vie au Brésil dans ces années-là, y compris dans la colorimétrie. C'est-à-dire, on a l'impression que le film il est fait en analogique, avec les couleurs d'époque. Enfin, c'est très, très, très impressionnant. Les acteurs sont formidables. Il n'y a pas il n'y a pas de rôle secondaire, il n'y a pas de petit rôle. Ils ont tous une densité, une épaisseur qui est très impressionnante. L'histoire et le narratif est très bien mené. On a l'impression. Et puis il y a plein de clins d'œil au cinéma. C'est-à-dire, ça s'ouvre sur une scène qui fait penser au fil du temps de Wenders avec la coccinelle, avec ce personnage principal qui est en fuite et pour des raisons qu'on comprendra plus tard, qui va essayer de récupérer son fils. Et puis après, on va parler des Dents de la Mer. On va parler. On va parler de Belmondo, etc. Enfin, il y a un amour du cinéma par ce réalisateur qui est très prégnant. Un film de genre, d'un peu tous les genres. C'est évidemment un thriller, mais c'est loin de n'être qu'un thriller. Et un mélange de genres, parce qu'il y a des côtés un peu épouvantes, fantastiques, etc. Enfin, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce film. Est-ce que ça raconte l'arc entre les années 70, cette dictature à l'œuvre, et puis tout
l'extrême droite au Brésil.
Ouais. Voilà, et puis tout le monde de solidarité qui se crée dans la société brésilienne, puisque c'est ce qu'il y a de très très beau dans ce film-là. Et puis l'arc avec à la fin, mais là on va pas spoiler sur
la fin
le
du
Brésil
film.
D'aujourd'hui.
De votre côté, Anaëlle, vous avez vu le film de Sébastien Lifshitz, Un jeune homme de bonne famille, qui sera diffusé sur arte.tv à partir de demain et lundi prochain sur la chaîne.
Oui, tout à fait. Donc Sébastien Lifshitz, qui est un auteur de documentaires qui ont trait aux questions du genre et de l'intime, il s'est formé...
De long métrage aussi.
De long métrage aussi, oui, tout à fait.
Quelques grands longs métrages. Ouais.
Tout à fait. Il a un regard très plastique dans sa façon de filmer. Il s'est formé d'abord à l'histoire de l'art et à la photographie avant de devenir cinéaste. On lui connaît par exemple des films comme Casa Susana, comme Garçon Sensible, comme Bambi ou bien beaucoup plus tôt un documentaire sur Claire Denis dont il a été l'assistant. Et Un jeune homme de bonne famille, c'est le portrait d'un homme ordinaire, homosexuel, à partir d'un livre de mémoire que Sébastien Lifshitz a découvert. Cet homme s'appelle Claude Loire, il raconte sa vie sans filtre à l'âge de 80 ans. On passe de son enfance en Ariège à sa vie d'acteur porno dans les années 70, à son dernier amour avec un homme algérien au cours des 10 dernières années. Il y a dans le film un travail d'archives queer extrêmement intéressant et des images tout à fait rares, notamment la première scène qui est formidable sur un ton un peu drôlatique, bizarre et très réussi. Et en même temps, c'est un film qui est tout en creux, tout en retenue. C'est l'histoire d'une destinée banale, d'un homme épris de liberté et d'envie de résistance.
Puis, puisqu'on parle d'Arte.tv, je signale pour les amateurs dont je suis la diffusion de Twin Peaks, saison 1 à 3, c'est-à-dire l'intégrale de David Lynch, en ligne désormais sur Arte.tv. Livre maintenant avec la collision de Paul Gagné, parmi les meilleures ventes JFK en fiction cette semaine, plus de 75 000 exemplaires vendus déjà en France. Et cela illustre notamment, en plus du talent de l'auteur et de sa médiatisation, il est dans Quotidien tous les soirs, l'effet des prix Goncourt, car il y en a plusieurs des prix Goncourt, hein, celui des lycéens, en plus du prix Goncourt principal, et en l'occurrence le prix Goncourt des détenus que Paul Gagné a obtenu. Vous avez lu ce livre également, Michel Aurier?
Oui, c'est une. Je dois dire que ça fait du bien parce que c'est un peu à l'inverse de ce qu'on peut entendre sur les chaînes d'infos en continu. C'est-à-dire que c'est évidemment un événement épouvantable au début, puisque la mère de l'auteur, en l'occurrence, va être percutée par un gamin qui fait du rodéo sur une moto extrêmement puissante.
D'où le titre du livre, La Collision.
Et au-delà donc de cette collision physique qui va entraîner la mort de sa mère, c'est la collision de deux univers complètement différents. L'auteur, Paul Gagné, va faire un chemin absolument admirable vers l'altérité pour essayer de non pas de comprendre, mais d'aller au bout de cette rencontre qui finalement n'aura pas lieu. mais qui va mettre, qui va permettre de mettre en jeu tous ceux qui ont été dans cette chaîne de événementielle, c'est-à-dire la police, la médecine, le juge d'instruction qui a jugé l'affaire et qui est lui-même un motard, etc. Donc, je dois dire que le livre ne va peut-être pas au bout de la promesse, mais en même temps, la démarche est réellement formidable. Et le plus problématique, c'est qu'en fin de compte, il y a la résilience, il y a une sorte de pardon, pas d'absolution, mais de pardon. Mais en tout cas, la rencontre entre les deux univers ne se fera pas.
Voilà, la collision de Paul Gagné, ça a paru chez Gallimard. Annaëlle, c'est un récit qui vous a frappé de Clélia Zernik. Je ne suis pas un Yakuza. Ça a paru aux éditions des conférences.
Oui, je ne suis pas un Yakuza. C'est un livre de Clélia Zernik qui est philosophe, qui est enseignante à l'école des Beaux-Arts, qui s'est prise de passion pour le Japon il y a une dizaine d'années. Elle y passe aujourd'hui une grande partie de son temps. Et ce livre, c'est une série de récits courts, très personnels, sur sa découverte du pays avec son regard d'occidental. Alors, on la voit arriver au rond-point de Shibuya, complètement déboussolée. Elle raconte son expérience des bains chauds, des onsen. Elle raconte son expérience de la solitude, mais aussi de la folie des boîtes de nuit, sur un ton à la fois drôle et poétique, plein d'autodérision. Et puis, c'est aussi un livre qui est nourri de philosophie. On y croise nourri d'art aussi, puisqu'on y croise des cinéastes, on y croise des artistes, on y croise des écrivains français et japonais. Et c'est aussi, par conséquence, une analyse tout à fait profonde sur la compréhension de la culture japonaise et sur l'ordre et le désordre.
L'ensemble des références et des chiffres du box-office sont à retrouver sur la page de cette émission Soft Power sur le site de France Culture. À suivre dans un instant, Influence de la France avec le livre de Michel Vinocq et Olivier Vievorka qui sont avec nous en studio. Et puis vers 19h10, musique classique avec ce soir un focus un peu maison sur les orchestres de Radio France, mais aussi beaucoup de sujets liés à la diffusion de la musique classique à la fois dans les territoires, à l'étranger, mais aussi sur le numérique. Mais juste avant, et pour clore cette séquence d'actualité de la semaine musique, avec ce soir à la fois d'abord une information, Emmanuel Paquette, dans le secteur musical, l'annonce toute récente du rachat de la salle de concert Arena La Défense, la plus grande en France et l'une des plus grandes aussi en Europe, par Live Nation, géant américain.
Oui, effectivement, alors c'est pas encore totalement fait, hein, puisqu'aujourd'hui Live Nation c'est 23 milliards de dollars de chiffre d'affaires, c'est un organisateur de 44 000 concerts dans le monde, de 100 festivals par an, dans 45 pays. Elle gère la carrière de 250 artistes et a racheté la plateforme de billets Ticketmaster. Donc, elle gère les artistes, elle a les salles et elle vend les billets. Donc, c'est une intégration verticale qui pose des questions.
Mais pas de conflit d'intérêts, donc tout va
voilà,
bien.
Pas du tout. Et aux États-Unis, notamment, les démocrates voulaient défusionner la société pour abus de position dominante, puisque là-bas, les prix des billets se sont envolés. Et l'autorité de la concurrence va devoir donner son aval au rachat de la Défense Arena, puisque aujourd'hui, c'est la plus grande salle d'Europe, avec plus de 40 000 places. Donc, la question est de savoir, est-ce qu'il va y avoir des remèdes de l'autorité de la concurrence, c'est-à-dire des contreparties, ou est-ce qu'elle va laisser le feu vert à Live Nation pour acquérir cette grande arena et promouvoir ses propres artistes, et peut-être au détriment d'autres artistes qui ne sont pas chez eux.
Et puis, autre sujet musical, et on va écouter un extrait pour introduire nos deux prochaines séquences, un extrait du Napoléon, donc c'est le film d'Abel Gance, dans la version restaurée avec notamment les deux orchestres de Radio France ont été mobilisés, ainsi que le chœur de Radio France, etc. Michel Aurier, c'était quoi ce projet qui a été donné à la scène musicale, plus de 7 heures, un DVD qui est en fait un Blu-ray, et avec donc la Marseillaise qu'on va écouter dans un moment incroyable, mais comment ça a été fait cette aventure?
C'est la plus grande restauration du cinéma français, c'est-à-dire c'est 16 ans de travail par la Cinémathèque.
Parce qu'il a fallu quoi? Repartir de la...
Oui, je crois qu'il y a 300 bobines différentes, il y a 1000 extraits, enfin, c'est un travail titanesque qu'a engagé la Cinémathèque il y a 16 ans. Alors il y a eu plusieurs restaurations avant.
Auparavant, oui, parce qu'on voyait le film restauré déjà il y a quinzaine d'années.
Mais aucune n'avait été au bout, et particulièrement sur le côté, alors c'est un film muet, hein, parce que c'est...
Absolument.
Et Et c'est d'ailleurs un des derniers films muets avant l'arrivée du parlant, c'est entre autres ce qui a créé les difficultés du film. Et la musique n'a jamais été écrite pour l'intégralité de ce film. C'est-à-dire que Honegger, qui avait été commandité par Abel Gance, a lâché l'affaire au bout d'un moment. Et c'est Simon Cloquet-Lafolie qui a été commissionné par la Cinémathèque, par le CNC, la Cinémathèque, pour réécrire une partition. Et en fait, il a eu cette idée formidable de tisser une bande musicale de 7 heures en utilisant une centaine d'œuvres différentes, 48 compositeurs différents, de la fin du 18e jusqu'à...
Donc là, on va écouter Massenet, donc c'est la version, donc le Napoléon, la partie, la Marseillaise. Alors, avec la répétition...
Alors oui, juste un mot là-dessus, si vous voyez le film, le Blu-ray vient de sortir, hein, donc vous pouvez vous procurer.
Il sera diffusé aussi sur Netflix, c'est ça ?
Oui, ça, il doit sortir sur Netflix. Il a été diffusé par France Télévisions, je ne sais pas s'il est encore disponible sur la plateforme. Et puis régulièrement, la Cinémathèque maintenant le rediffuse. Faut vraiment aller voir ça, c'est vraiment impressionnant. Mais sur la bande son sur la Marseillaise, ce qu'il y a de formidable, c'est que Georges Monrier s'est rendu compte, quand ils ont monté cette séquence-là, qu'on pouvait lire les paroles de la Marseillaise sur les labiales, alors même que ça a été filmé
en muet.
Et donc tout notre travail a constitué à chanter la Marseillaise en fonction de ce qu'on pouvait en voir à l'écran, avec deux moments très particuliers. Un moment où l'assemblée des cordeliers découvre la partition, enfin les paroles, et essaie de chanter maladroitement. Donc il faut faire chanter le chœur de Radio France maladroitement, ce qui n'est pas simple.
Parce que normalement ils chantent bien.
Ils chantent formidablement bien, et ils l'ont fait superbement. Et puis la deuxième partie où évidemment toute l'assemblée des cordeliers reprend à plein poumon la Marseillaise.
On va écouter un extrait tout de suite. La Marseillaise sur France Culture à 18h52. Sur 53, magnifique, n'est-ce pas, Michel Aurier?
C'est pas moi qui dirais le contraire.
Non. Le livre s'appelle Les lieux mondiaux de l'histoire de France, sous la direction d'Olivier Vivorca et Michel Vinoc. Ça a paru aux éditions Perrin. Je ne peux pas ne pas faire de transition, évidemment, avec d'une certaine manière, la Marseillaise, ou plus précisément Napoléon, puisque votre livre commence avec lui et termine avec lui, d'ailleurs, positivement et moins positivement. Olivier Vivorca, d'une certaine manière, ce qu'on vient d'entendre là, et le film d'Abel Gance, plus globalement... Alors, il n'aurait pas pu figurer dans le livre parce que ce n'est pas exactement le projet, mais ça vous parle, forcément.
Bien sûr, ça nous parle. Napoléon est une légende, mais ce qu'il y a de tout à fait fascinant, c'est que c'est une légende française, mais que c'est aussi une légende internationale. Et lorsque l'on regarde la mémoire napoléonienne en prenant le site de Waterloo, article que nous devons à Thierry Lindz, on s'aperçoit que Waterloo, qui est quand même une défaite absolument épouvantable, qui a été meurtrière, qui a été
dans la glace,
terrible, est devenu une défaite héroïque. Et à telle enseigne que le site, d'abord, d'emblée, a été extrêmement préservé. D'emblée, les contemporains ont fait ce qu'on appellerait aujourd'hui un tourisme mémoriel. D'emblée, les contemporains ont érigé des monuments. Vous avez plusieurs dizaines de monuments qui parsèment le site. D'emblée, le site a été protégé. Mais, phénomène encore plus incroyable, beaucoup de visiteurs, japonais notamment, pensent que c'est Napoléon qui a gagné la bataille de Waterloo. Voilà, donc on voit bien...
C'est ce que Emmanuel Paquette pensait aussi en début d'émission.
J'ai appris des choses.
Hein. Bah, c'est très simple, il faut prendre les ponts de Paris, c'est forcément des victoires. Et quand c'est une gare à Londres, bah, y a quelques problèmes. Quoi.
Exactement. Donc on voit bien, si vous voulez, qu'au fond, on a des lieux, mais qu'on a aussi des phénomènes de mémoire et de construction mémorielle qui se déroulent et qui amènent à reconsidérer la manière dont l'événement a été perçu à l'époque et dont il est perçu aujourd'hui.
Michel Vinocq, vous co-dirigez avec Olivier Vivorca donc ce livre « Les lieux mondiaux de l'histoire de France ». On l'a dit au début, il s'agit de suivre au fond l'histoire de France ailleurs, dans d'autres pays. Comment on fait la sélection? En l'occurrence, je crois qu'il y en a 27 de lieux. On aurait pu en prendre 300 parce qu'il y en a beaucoup. Certains... Comment on fait 27? Vous vous êtes battu entre vous?
Pas du tout. Il suffit d'ouvrir un atlas, de regarder le monde.
L'endroit les plus grands, les plus gros.
Et de se dire, tiens, mais là... Il y a des marques françaises. Moi, je voudrais attirer l'attention sur un lieu qui est à la fois très connu et dont on ne mesure pas toujours l'importance. Je parle de la bataille d'Hastings. Bon, alors, très connu parce que cette bataille remportée par le duc de Normandie, qui était Guillaume le Conquérant, qui, à la suite de cette bataille et de cette victoire sur le roi d'Angleterre, Harold, est devenu lui-même roi d'Angleterre et a installé,
d'où son nom,
et a installé une dynastie Conquérant. Anglo-normande qui va durer. Alors, je dis que c'est assez connu parce que nous avons en France même le récit de cette bataille par la tapisserie de Bayeux, qui est d'ailleurs une broderie, mais peu importe. Et une broderie qui est une œuvre d'art absolument magnifique.
On va peut-être prêter, et tout.
Oui, ça, voilà. C'est une autre histoire. Oui, c'est quand même délicat pour le transport, mais enfin...
En même temps, on peut dire, vous savez, on a déjà évoqué ça, mais vous savez, quand les soldats, en l'occurrence les GI américains, mais aussi anglais, ont traversé la Manche pour venir libérer le pays, ils ont pris aussi des risques. Donc, là, on peut peut-être prêter la tapisserie.
Bon, en tout cas... Hastings est connu, mais on ne connaît pas forcément les conséquences de cette victoire tout à fait extraordinaire, puisque c'est quand même la conquête de l'Angleterre, ça n'arrive pas tous les jours, par un Français, un Normand, mais qui parle le français. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? D'abord, il y a tous les ans, un colloque depuis 1978 qui est organisé sur les lieux de la bataille. Il y a tous les 5 ans environ des reconstitutions de la bataille, mais plus profondément, il y a que ce Guillaume, avec ses barons et ses troupes, qu'est-ce qu'ils amenaient, qu'est-ce qu'ils apportaient en Angleterre? Leur langue. Et que ils ont appris aux Anglais le français. Savez-vous qu'il y a dans le lexique anglais d'aujourd'hui 37 000 mots d'origine française.
Ce qui facilite, c'est la seule facilité qu'on a quand on parle anglais.
Tous n'ont pas été apportés évidemment par Guillaume, mais n'empêche, une bonne partie de cet apport linguistique a été le fait de cette bataille d'Hastings.
Alors on va, c'est un dictionnaire assez long, enfin c'est pas un dictionnaire d'ailleurs, mais en l'occurrence il est un peu construit comme tel, avec ses 27 entrées et lieux. Prenons-en quelques-uns pour avoir un peu des réactions à Anne Alpija.
Par exemple, le château de Coppet, la demeure de Madame de Staël, qui apparaît dans le livre comme une sorte de salon politique, peut-être une sorte de cabinet noir de la France. Est-ce que c'est dans ces termes que cela se pose?
Oui, alors le Coppet appartenait à été, c'est un château qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de Genève, en Suisse, au bord du lac Léman. Et ce château avait été acheté par Necker, qui avait été ministre des Finances de Louis XVI, très célèbre, et qui est devenu, après la mort de Necker, véritablement le salon de sa fille Germaine de Staël. Et Madame de Staël, à Coppet, lorsqu'elle a été bannie par Napoléon, qui la redoutait à cause de son influence politique, eh bien, elle en a fait un véritable salon international, européen. Et là, à Coppet, on a rassemblé, comme disait Stendhal, les États généraux de l'Europe. Tous les grands écrivains, musiciens, et se sont rassemblés à Coppet, au cours de séjours qui étaient à la fois des fêtes, des échanges, tout cela demeure aujourd'hui, puisque ce château existe tout, et existe toujours. Il existe une fondation du château de Coppet que l'on peut visiter. Et c'est dans le parc de ce château que se trouve le mausolée où se tiennent les dépouilles des époux Necker et de Madame de Staël.
Et puis si on revient du côté de l'Angleterre, il y a une autre enclave de la République française exilée qui est la maison de Victor Hugo à Guernesey.
Oui, absolument. Alors à Guernesey...
Olivier Evorka.
Oui, Victor Hugo donc s'est réfugié à Guernesey. En fait, il a commencé par se réfugier à Bruxelles. Ensuite, il est allé à Jersey. Il a été obligé de quitter Jersey.
Là, c'est Napoléon III. Enfin, c'est
pour... Oui, en raison du coup d'État de Napoléon III, il a été obligé de quitter Jersey parce que vous aviez eu des pétitions contre la reine Victoria. Et donc, il n'a pas signé cette pétition, mais il a été solidaire des pétitionnaires. Et donc, on l'a tout simplement expulsé de Jersey. Et il a finalement décidé d'atterrir à Guernesey, tout simplement parce qu'il détestait Londres. Et donc, à Guernesey, il va vivre dans une maison absolument fantastique que l'on peut visiter aujourd'hui, qui a été restaurée, où il va construire toute une partie de son œuvre et devenir aussi une très grande voix exilée qui va porter la contestation à l'empire de Napoléon III qui l'exècre.
L'Angleterre est présente dans le livre à plusieurs reprises, et notamment aussi avec le Crystal Palace, qui est inauguré en 1851, qui est détruit par un incendie en 1936, et qui est un mythe du Londres du 19e siècle. L'architecture de ce palais de verre rappelle les expositions universelles, mais quels sont plus précisément ses liens avec la France ?
Et pourquoi le Crystal Palace dans ce dictionnaire ?
Oui, alors absolument, parce que, en fait, vous avez quand même, il faut le souligner, une rivalité entre la France et l'Angleterre, qui est une rivalité traditionnelle.
Déjà, au niveau du concours, entre guillemets, à l'époque d'architecture, c'est pas nous qui l'emportons, mais il y a un Français qui est candidat, c'est ça ?
Donc, il y a le concours d'architecture, mais il y a également une rivalité économique et industrielle entre la France et l'Angleterre. Et donc, l'exposition universelle qui va se tenir en 1851 sert à être la vitrine industrielle de l'Angleterre, mais la France entend également montrer l'excellence de sa production, notamment en termes de luxe. Et donc, vous avez autour de ce Crystal Palace à la fois un phénomène de concurrence entre la France et l'Angleterre, et en même temps la volonté française de montrer son talent, avec d'ailleurs quelques nuances, parce que des industriels renâclent à l'idée de présenter leurs produits, tout simplement parce qu'ils craignent l'espionnage industriel de la perfide Albion.
Qui est très perfide,
oui,
comme on le sait.
On le sait, c'est une vérité établie. Et donc finalement, cette exposition est un succès. Elle va amener d'ailleurs Napoléon III à faire... en contre-coup, une autre exposition universelle en 1855, qui sera également un très grand succès, et a essayé, au fond, de construire une rivalité, comment dirais-je, harmonieuse entre la France et l'Angleterre, qui va déboucher sur le traité de libre-échange de 1860. Donc on voit bien qu'il y a ici à la fois un phénomène de compétition, mais également aussi de coopération par...
Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est pas dit dans l'article, mais on a dans Illumination, poème important de Rimbaud, on a toute une série de références à ce Crystal Palace que sans doute il a vu, puisqu'il est là à Londres, il vit à ce moment-là, et il va être impressionné, sans doute était très impressionnant.
Ah, c'était très impressionnant.
Le glace, alors d'abord dans Hyde Park, ensuite ça part au sud, je crois, de Londres, si je me souviens bien de l'article que j'ai lu, et c'est donc une histoire incroyable que vous racontez. On pourrait en prendre beaucoup d'autres, j'aimerais juste en citer quelques autres entrées, parce qu'on ne peut pas toutes les citer. Saint-Louis des Français à Rome, donc là c'est l'église française de Rome, ça nous appartient entre guillemets, puisque d'ailleurs je crois qu'il y a un bâtiment du consulat ou des services culturels juste à côté, et il y a les fameux trois Caravages incroyables dans cette église. Pondichéry, là c'est, ça serait quoi pour le coup
C'est
Michel Vinocq.
C'est évidemment la colonisation française qui s'est étendue jusqu'à l'Inde. Où,
c'est une concession, c'est quoi comment,
oui,
quel est le statut
avait
de Pondichéry? Un comptoir.
Des comptoirs. Cinq villes, dont Chandernagore, etc. Et Pondichéry. Alors, ce sont des villes, effectivement, qui sont restées encore marquées par des influences françaises, des restes de langues françaises, etc. Et c'est tout de même assez extraordinaire de voir, justement, que cette influence aille si loin, n'est-ce pas, sur la map monde. Cependant, quand on fait le tour, comme vous le faites en ce moment, des entrées, on s'aperçoit qu'il y a quand même, en tout cas dans le choix que nous avons fait, deux grands types de lieux. Le premier, c'est quand même l'épopée napoléonienne. On a parlé de Waterloo, mais il y a aussi Austerlitz. Mais, et à la fin, il y a Sainte-Hélène,
oui.
N'est-ce pas, qui était remarquablement décrite.
Et puis la colonisation, vous l'avez dit en début.
Et puis, deuxièmement, la colonisation.
D'autres exemples, la Statue de la Liberté. Alors là,
oui, alors ça, c'est pas la colonisation. Alors,
non, bien sûr, non, mais pour continuer le tour,
oui.
les 27 lieux, 27 entrées, la Statue de la Liberté, donc là, on est à New York, la percée du canal de Suez, là on est colonisation, le drapeau brésilien, alors ça je ne savais pas du tout, j'apprends ça dans votre livre,
oui.
Avec son slogan, sa devise plutôt ordre.
Mais
et progrès, ça vient, c'est quoi? C'est Auguste Comte.
Auguste Comte, oui. Alors l'influence de la France au Brésil est considérable. Quand je suis allé au Brésil, je me suis aperçu qu'il y avait énormément de gens qui avaient pour prénom d'homme Hugo. L'influence de Victor Hugo, incroyable. Et entre autres, mais aussi, bon, l'influence d'Auguste Comte, du positivisme, et le drapeau brésilien porte comme devise « Ordre et progrès », qui est la devise d'Auguste Comte.
Olivier Vivorca sur
avec,
ce sujet.
Quand même, il faut le souligner, le fait que Auguste Comte sert à une partie des élites brésiliennes de manière un petit peu contournée. Parce que au fond, il promet le progrès, mais il promet aussi un maintien des hiérarchies sociales. Donc ça plaît beaucoup aux militaires, si vous voulez, d'à la fois incarner le progrès face à un pays, le Brésil, qu'il faut moderniser, mais en même temps de conserver des positions dominantes. Donc il ne faut pas non plus idéaliser cette influence positiviste.
Alors on peut citer la concession française de Shanghai, on peut citer le canal de Panama, après celui de Suez que j'avais évoqué tout à l'heure.
Il a eu moins une réussite, il faut
ça
le dire.
Oui, il faut l'a échoué complètement.
Qui a été un échec technique.
Autre échec bien fou, on ne peut pas dire que c'est une grande réussite non plus. Et non, puis je termine avec le balcon de De Gaulle, là on est à Montréal, 1967, avec la fameuse formule, etc. Donc autant d'entrées.
Oui, et ces deux éléments montrent bien justement le caractère un petit peu ambivalent des lieux, parce que Dien Bien Phu, c'est dans une certaine mesure le Valmy des peuples asiatiques, mais en même temps c'est
l'Austerlitz de la France,
vraiment catastrophique pour la France. Et pour le balcon, avec si les auditeurs ont le temps qu'ils regardent l'archive INA de ce discours qui est saisissante de puissance, avec là encore une ambivalence, de quoi De Gaulle se mêle-t-il,
ouais.
Voilà.
Et on lui reproche toujours.
Voilà, et on le lui reproche, et en même temps un geste absolument d'un panache incroyable.
Pour terminer, peut-être un Pigeon Ou alors Michel Aurier. Michel Aurier.
Juste, non, pour revenir au Waterloo du début, mais ce qui m'a frappé quand je suis allé à Waterloo, c'est que...
Pas à l'époque, rassurez-vous.
Non, pas à l'époque. Non, mais quand on visite le site, évidemment, après, il y a la boutique. Tu vois, faut toujours s'attarder un peu dans les boutiques, ça raconte beaucoup de trucs. Il y a rien sur Wellington, il y a rien sur Blücher, tout est sur Napoléon.
Pareil pour les monuments.
Ça, j'ai trouvé ça formidable quand même.
Allez, Anaëlle, pour
et Birakem, qui est en face de la Maison de la Radio.
Oui, alors Birakem qui a été un
aussi une statue de la liberté pour voilà. le dire, mais c'est la maquette hein, seulement.
Qui est un haut lieu donc de la France libre puisque c'est là que les hommes de Koenig hein, ont réussi à bloquer l'avance de Rommel et donc permis dans une large mesure au général britannique Montgomery de l'emporter à El Alamein quelques temps plus tard. Donc c'est le moment, si vous voulez, Birakem qui est important, où la France, après la défaite écrasante de 1940, revient sur le terrain militaire et obtient une victoire que les gaullistes vont célébrer à l'envi, bien entendu, mais qui n'est pas non plus, il faut le souligner, Stalingrad ou Koursk.
Voilà, on parle de soft power en l'occurrence dans ces lieux mondiaux de l'histoire de France. C'est publié chez Perrin, co-dirigé par Olivier Vurca et Michel Vinogue. Merci d'avoir été nos invités ce soir. Et vous restez avec nous parce que vous aurez sans doute des questions dans la partie qui suit, puisque dans un instant, le grand focus du dimanche ce soir est avec Michel Aurier sur la musique et la création Radio France et ses orchestres et tout un tas d'autres sujets. Restez avec nous.
France Culture, LSD interroge les conditions nécessaires pour faire de l'écologie une cause populaire alors que la transition pèse plus lourd sur le quotidien des plus pauvres. Tout le monde aime la nature, mais une bonne partie du peuple déteste les écolos.
Pour que les gens y trient et qu'ils acceptent de composter, qu'ils acceptent de trier leurs poubelles aussi, il y a une petite éducation, une petite sensibilisation.
LSD, la série documentaire Écologie et résistance de Pauline Mocor, réalisation Cécile Lafont, du lundi au jeudi à 17h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Le poète-rappeur Abdel Malik partage et commente les poèmes qui accompagnent sa vie.
Je m'appelle Abdel Malik, je suis un poète, je suis un saltimbanque, je suis un rappeur, je suis un écrivain, Mais le lien de tout ça, c'est la poésie. Je pourrais dire je suis Abdel Malik, poète. Ouais, Abdel Malik, poète. Voilà, c'est bien ça, non ?
L'instant poésie de Abdel Malik, tout le mois de janvier à 20h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.